Ça fait de la différence d'être un élève dans une ZUS ou d'être un élève dans un centre-ville favorisé, dans une banlieue favorisée. Ça fait de la différence, bien entendu.
Françoise Lorcery, directrice de recherche au CNRS.
C'est pas le même bâti, c'est pas les mêmes camarades de classe, c'est pas les mêmes professeurs. On a montré que les professeurs dans les zones plus défavorisées socialement sont plus jeunes.
Des profs plus jeunes, des élèves en plus grande difficulté, des bâtiments parfois plus vétustes. L'école fonctionne-t-elle différemment selon son emplacement? Les pratiques éducatives contribuent-elles à des inégalités scolaires? Bref, un jeune scolarisé en ZUS aura-t-il le même enseignement, les mêmes chances de réussite qu'un élève en classe dans un autre établissement? Eh bien, ces questions ont fait l'objet d'une journée d'études. C'était début octobre à l'Institut français de l'éducation à Lyon. Les professionnels de l'éducation prioritaire sont d'accord, il faut réduire les écarts en matière de réussite scolaire et éducative. Pour en parler, j'ai rencontré Françoise Lorcery, chercheure au CNRS. Ses travaux portent sur l'éducation des enfants d'immigrés. Et visiblement, il y a bien inégalité de traitement dans les pratiques éducatives. Françoise Lorcery.
Jusqu'à présent, les questions de l'inégalité sociale devant l'école étaient plutôt renvoyées à l'extérieur de l'école. Et on voyait comment les groupes sociaux étaient différemment lotis en ressources, en moyens intellectuels et en ressources matérielles pour réussir à l'école. La journée d'aujourd'hui a la particularité de traiter de l'inégalité de traitement dans les pratiques éducatives, c'est-à-dire de se demander comment fonctionne l'école à l'égard des différentes catégories d'élèves, des différentes catégories au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des catégories que distingue l'analyse sociologique, comment fonctionne l'école et est-ce que les pratiques de l'école ne contribuent pas à la production, à la construction dans le temps de l'inégalité de résultats scolaires.
Parce qu'il y a des fonctionnements qui diffèrent d'une école à l'autre?
Parce que, forcément, les fonctionnements diffèrent d'une école à l'autre. Aucun individu ne fonctionne exactement de la même façon. Aucun collectif ne fonctionne exactement de la même façon, même quand il aspire à fonctionner d'une façon uniforme. C'est le cas, dans une certaine mesure seulement d'ailleurs, dans l'école, où les établissements, collèges, lycées, écoles, vise à garder une certaine uniformité dans les fonctionnements. Malgré cette visée, il y a effectivement tout de même des différences. Et forcément, dans la façon dont on traite les élèves, les apprentissages, ce qui se fait dans les classes ou dans les couloirs, c'est propre à chaque établissement. Chaque établissement a, comme on dit parfois, un climat propre, une façon de s'y prendre particulière. Des locaux qui sont particuliers, et les locaux aussi ont de l'importance. Du point de vue de la façon dont on s'y sent bien, pas bien, le bruit, la lumière, etc., tout ça a de l'incidence.
Qui dit différence dit alors discrimination. Il y a des discriminations dans l'éducation?
Alors, justement, c'est une des questions que pose cette journée, et ça n'est pas facile du tout d'y répondre. Qui dit différence ne dit pas discrimination, bien entendu. Il y a des tas de différences, et la vie est faite de différences. Ça ne veut pas dire qu'on produit de la discrimination, c'est-à-dire du traitement défavorable à l'égard de telle ou telle catégorie d'élèves que l'on repérerait d'un point de vue de recherche. On se dirait, tiens, voyons s'il y a de la discrimination à l'égard des filles, voyons s'il y a de la discrimination à l'égard des handicapés, voyons, etc. Il y a différentes catégories dont on peut se dire, peut-être qu'elles sont en risque par rapport à la discrimination, et peut-être qu'il y en a, effectivement. Bon, ben, le fait d'avoir de la différence dans des façons de faire, la construction des classes, le régime de la vie scolaire, etc., l'environnement matériel bâti de l'établissement ne signifie pas qu'il y a de la discrimination. discrimination à l'égard de telle ou telle catégorie. Voilà.
Est-ce qu'il y a plus de différence alors entre des établissements qui sont installés dans les US, dans les ZEP, en quartier, que les autres établissements ?
Ça fait de la différence d'être un élève dans une ZUS ou d'être un élève dans un centre-ville favorisé, dans une banlieue favorisée. Ça fait de la différence, bien entendu. C'est pas le même bâti, c'est pas les mêmes camarades de classe, c'est pas les mêmes professeurs. On a montré que les professeurs dans les zones plus défavorisées socialement sont plus jeunes. On coûte moins cher finalement à l'État, puisque pour une bonne part la paye, le salaire des enseignants est lié à leur ancienneté et à leur niveau de diplôme.
Oui, mais du coup ils ont moins d'expérience pour accompagner ces enfants qui ont peut-être plus de difficultés.
Ils ont moins d'expérience du coup, c'est certain, et alors on peut discuter, hein. J'ai entendu des chefs d'établissement qui disaient que eux, donc à faire, ils préféraient les jeunes enseignants parce que ils étaient plus frais, moins, disons, coincés dans des routines, dans des types d'enseignement un peu autoritaires, un peu distants par rapport aux élèves, qui sont assez inadaptés finalement dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Et des chefs d'établissement, lorsqu'ils ont eux-mêmes une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire et des bons gestes à tenir vis-à-vis de ces familles et des élèves, sont parfois contents d'avoir des jeunes, parce que justement les jeunes vont être plus plastiques et ils vont pouvoir les amener à travailler en équipe de façon un peu différente que des enseignants plus confirmés, qui seraient plus conscients de ce qu'ils font et plus désireux de maintenir ce qu'ils font ailleurs, de faire pareil là, etc. Donc on ne peut pas généraliser. Voilà, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Il y a des phénomènes collectifs qu'il faut prendre en compte. Et la jeunesse peut être parfois une ressource. Elle peut être parfois aussi, effectivement, une limite à l'expérience.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Lorcery, chercheure au CNRS. Il est question des pratiques éducatives inégalitaires. des pratiques pédagogiques qui varient d'un établissement à l'autre et qui peuvent, dans certains cas, aboutir à des formes de discrimination. Françoise Lorcery.
Ce qui compte, c'est les pratiques pédagogiques qui ont lieu dans les classes. Oui, certaines pratiques pédagogiques sont plus égalitaires que d'autres. On n'est pas là dans un domaine très bien exploré par la recherche française. Il se trouve que les recherches pédagogiques en France utilisent peu les catégories sociales pour se demander quelles pratiques sont plus efficaces avec telle ou telle catégorie sociale d'individus. Mais je crois que dans l'ensemble des recherches qui se font dans le monde, on identifie des pratiques pédagogiques qui sont plus favorables à l'égalisation des résultats ou à faire que des élèves qui sont peu scolaires, peu disposés à des apprentissages abstraits apprennent malgré tout, c'est des pratiques qui sont plus différenciées justement. C'est des pratiques qui font davantage attention à la façon dont l'élève apprend, aux erreurs qu'il commet et qui essaient de se fonder sur ces erreurs pour proposer aux élèves différentes situations d'apprentissage qui soient adaptées. Donc en fait, une façon frontale de diriger la classe, la pédagogie qu'on appelle magistrale, volontiers autoritaire, qui essaie de conduire la classe de façon uniforme. On sait que c'est une pédagogie qui produit beaucoup de différences dans les résultats et qui est injuste socialement, qui ne permet pas aux élèves les moins bien dotés familialement de progresser correctement, on le sait.
Et ce sont des difficultés que rencontrent principalement les élèves dans les banlieues, ceux qui sont scolarisés dans les banlieues ?
Ce sont des difficultés, oui, que les élèves scolarisés dans les banlieues peuvent connaître parce que leurs familles les ont parfois moins bien disposées envers l'écrit, qu'ils sont moins habitués à pratiquer la lecture et l'écriture, qu'on parle dans leur famille un autre registre du français que la langue scolaire, etc. Ils ont donc davantage de transformations, d'adaptations à faire dans l'espace scolaire lui-même et ils y sont plus ou moins aidés.
D'où peut-être les 180 000 élèves qui décrochent chaque année s'ils ne sont pas forcément suivis ou aidés.
Les X élèves, le chiffre varie entre 140, 150, 180, peu importe, en tout cas c'est trop. Il y a des élèves qui décrochent et d'autre part il y a des élèves qui sans décrocher ne font pas les apprentissages qui sont attendus d'un citoyen normal dans notre société. Et ces élèves-là effectivement se recrutent surtout dans les milieux sociaux défavorisés. C'est clair. Et bon, la façon dont se fabrique une trajectoire d'échec, c'est complexe, c'est encore pas très bien étudié, mais on sait que ça prend du temps et que effectivement un mauvais accrochage au départ finit par construire une trajectoire de décrochage quand arrivent d'autres expériences de mauvais accrochage, éventuellement des expériences d'ailleurs de déménagement aussi, des expériences qui affectent la famille elle-même, des expériences de déménagement, des expériences d'hospitalisation, etc. Tout des tas d'épisodes qui finissent par éventuellement se compléter et produire, lorsque l'élève arrive à 14, 15, 16 ans, du décrochage ou du non-diplôme, en tout cas du mauvais apprentissage.
Tout le monde est conscient de ces difficultés-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ?
Pour l'instant, le gouvernement, le ministère est en difficulté avec cette question, c'est évident, puisque on peut dire que le dossier de la formation des professeurs est sur l'agenda. La formation qui existait a été détricotée, rien de très sérieux qui tienne la route n'a été mis à la place. Et on est dans une situation institutionnelle originale où on ne doit pas avoir beaucoup de cas de cette espèce dans le monde développé, où on a un grand pays démocratique qui prétend avoir eu un projet scolaire d'émancipation, de démocratisation de masse et qui ne forme pas professionnellement ses enseignants.
C'est dramatique quand même d'en arriver là.
C'est hallucinant, c'est tellement bizarre que c'est, oui, on peut dire dramatique, on peut dire incompréhensible, on peut dire scandaleux si on considère qu'il y avait quand même des responsabilités à exercer qui n'ont pas été exercées, au contraire. Oui, c'est fou. Ce qu'on va avoir, c'est quand même une remise à plat du dossier de la formation des enseignants et puis une nouvelle formation qui va arriver. L'enjeu, c'est de mettre la pédagogie au centre de cette formation. Et ça, c'est pas acquis du tout. Ici, en France, la question pédagogique est passionnée et politisée. Et on voit des groupes s'opposer en insultant les autres de pédagogistes. Pédagogue et pédagogiste, c'est devenu une insulte. Se préoccuper de pédagogie, ça passe pour être la porte ouverte à la dégradation du système, à la baisse des niveaux d'exigence, etc. Donc on a une politisation de la question qui ne va certainement pas contribuer à faciliter le traitement. Or, c'est vraiment l'acte pédagogique, la conduite des classes, la mise en place des apprentissages, la construction des apprentissages par les élèves, c'est ça qui doit être au centre de la réforme de la formation des professeurs.
Repenser la formation des professeurs, voilà un des objectifs de la réforme de l'éducation nationale. Faut-il encore que les politiques s'emparent réellement du dossier et que l'école ne produise plus d'inégalités ?
L'école la plus efficace, c'est une école mixte. Pourquoi des écoles dans lesquelles sont plus concentrés les enfants favorisés sont, toutes choses égales par ailleurs, moins efficaces que des écoles où il y a plus d'hétérogénéité, plus de mixité ? C'est bizarre. Et pourtant, c'est ce qu'ont l'air de montrer les travaux dont on dispose.
Merci à Françoise Lorsery, directrice de recherche au CNRS. Production et réalisation Anis Claire. Thank you.